Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
1, 0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, jeudi 15 mai 2025. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Quelle très bonne idée. Est-ce que vous avez entendu parler du mouchoir gate autour de la table ?
Oui.
Ça vous, ça vous cause un
peu. Oui.
J'ai
besoin
de savoir, dis-moi tout.
Alors, je t'explique, Eva. En fait, tout a commencé par une vidéo. Dans un train en direction de Kiev, en Ukraine, Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre britannique Keir Starmer sont côte à côte, tout sourire. Sur la table devant eux, un mouchoir. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une puissante campagne de désinformation. Selon la complosphère, à savoir plusieurs figures d'extrême droite et comptes pro-russes, aucun doute, le tissu en papier saisi par le président français qui le glisse dans sa poche est un sachet de drogue. Emmanuel Macron est cocaïnomane. La rumeur passe devant les yeux de 75 000 internautes sur X, à tel point que l'Élysée est forcé de réagir avec un humour qu'on ne lui connaissait pas vraiment. Sur une publication, le palais présidentiel oppose deux photos, un zoom sur le fameux mouchoir qui n'est définitivement pas un sachet de cocaïne, hein, et un plan large sur les trois dirigeants européens en pleine accolade. Sur la première image, on peut lire « Ceci est un mouchoir » pour se moucher. Sur la seconde, ceci est l'unité européenne pour bâtir la paix. En matière d'infox, on n'arrête pas le progrès. Tout de suite, de vraies infos dans le flash de Romain.
Début des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Les délégations ukrainiennes et russes se retrouvent aujourd'hui à Istanbul, en Turquie. Vladimir Poutine ne sera pas présent, Volodymyr Zelensky fait lui le déplacement. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio devrait également se rendre en Turquie demain. Il devrait participer aux discussions. Ces pourparlers entre la Russie et l'Ukraine sont les premiers depuis 2022 et le début de l'offensive russe en Ukraine. « Je n'ai pas menti », ce sont les mots de François Bayrou. Il les a répétés plusieurs fois durant son audition par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Betaram. Le Premier ministre a été entendu pendant plus de 5 heures. Il n'a pas changé sa version des faits, affirmant ne rien savoir des violences subies par les enfants au sein de l'Institut catholique. Le Premier ministre s'est montré très incisif dans ses réponses. Il a dénoncé une instrumentalisation politique de l'affaire et a rejeté de manière virulente les témoignages contredisant sa version en parlant d'affabulation ou de gag. La commission d'enquête parlementaire rendra ses conclusions fin juin. On est officiellement mi-mai, les premières chaleurs nous tombent dessus et avec elles des petits êtres maléfiques les accompagnent, les moustiques tigres. Habillés de leurs rayures blanches et noires, ces insectes suceurs de sang sont porteurs de la dogue et du chikungunya. Ces deux virus sont surveillés de près ces derniers jours et Eva va nous expliquer pourquoi.
Comme le Mistral en plein juillet, aujourd'hui a été publiée une étude dans la revue scientifique Lancet Planetary Health qui fait froid dans le dos. L'étude consiste en une analyse globale des comportements et de la prolifération des moustiques tigres en Europe depuis leur apparition sur le continent en 1990 jusqu'à l'année 2024. En parallèle de l'étude écologique sur l'insecte, l'analyse exploite des données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et de l'OMS et en vient à plusieurs conclusions importantes. La première, il y a une corrélation entre la présence exponentielle des moustiques tigres sur le continent européen et la propagation des maladies de la dengue et du chikungunya en Europe. La deuxième, l'augmentation de ces insectes et des deux virus dans l'hémisphère nord est directement liée au réchauffement climatique. En gros, l'étude explique que plus les températures sont chaudes, plus le cycle de vie du moustique tigre est court. Donc, plus les moustiques vont se reproduire rapidement et plus le nombre d'individus augmente. La chaleur a aussi un effet multiplicateur sur la dengue et le chikungunya dans le corps de l'insecte, créant plus de probabilités pour que les virus soient propagés aux humains. Sachant que les moustiques tigres vivent dans des endroits chauds et humides, le réchauffement climatique favorise leur déplacement vers le nord où l'atmosphère européenne devient propice pour leur développement et reproduction. Financée par le programme européen Horizon pour la recherche et innovation, l'étude projette que les maladies deviennent endémiques en Europe et qu'en 2060, le risque d'épidémie de la dengue et du chikungunya soit 5 fois plus élevé que ces 25 dernières années.
Et quelles sont les conséquences du coup de ces deux virus sur les êtres vivants ?
Le chikungunya est une maladie arbovirose, donc transmise par les moustiques, et est encore mal connue du monde scientifique, explique le site de l'Institut Pasteur. De multiples hypothèses sur son processus d'action sont en cours d'analyse, mais le virus affecte principalement les articulations et s'accompagne d'une fièvre et d'une éruption cutanée sur les membres. Sous ses formes les plus graves, le système nerveux central peut être touché, et chez ceux avec un système immunitaire affaibli, comme les personnes âgées ou nourrissons, la maladie peut être mortelle. La dengue, elle, est surnommée la grippe tropicale et est caractérisée par une fièvre pouvant atteindre 41 degrés Celsius. En l'absence de traitement ou avec un traitement inapproprié, le virus peut être mortel. Mais la létalité reste très faible avec approximativement 1% de cas mortels selon l'Institut national de santé publique du Québec.
Merci Eva. Une campagne de vaccination a été lancée il y a moins d'un mois sur l'île de la Réunion, ayant déjà subi une épidémie de chikungunya il y a 4 ans. Une nouvelle épidémie s'est annoncée et à compter du 7 mai dernier, 12 décès sont recensés. Dans la métropole française, en Occitanie, 8 cas de chikungunya et 2 cas de dengue ont été déclarés par l'Agence régionale de santé. Liberté conditionnelle pour Nicolas Sarkozy. Seulement 3 mois après sa condamnation en appel à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes, l'ancien président de la République a pu enlever son bracelet électronique. En effet, étant maintenant âgé de 70 ans, il a pu demander une demande de libération conditionnelle avant la moitié de sa peine. Il encourt tout de même une autre condamnation dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle. Le verdict est attendu pour septembre. Le Crous Bretagne en crise. 2 dirigeants du Crous de Bretagne ont été suspendus, dont le directeur général. Ces suspensions ont lieu après une enquête administrative mettant en lumière de nombreux dysfonctionnements. Le Crous Bretagne est en crise budgétaire avec un déficit de plus de 3 millions d'euros. Dans le même temps, de nombreux bâtiments et logements nécessitent des rénovations. Par exemple, à Rennes, le métronome doit être mis aux normes sanitaires et sécuritaires, tout comme de nombreux logements étudiants. Fin avril, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne publiait les chiffres clés du bois énergie en Bretagne. Cette publication propose un éclairage détaillé des dynamiques en Bretagne ces 10 dernières années. Ce rapport met en lumière une tension sur la ressource de bois. On est allé à la rencontre de Alejandro Zermeno Rodriguez, rédacteur et référent technique de cette publication. Il nous décrit ce qu'est le bois énergie et quels en sont les enjeux.
C'est un terme technique, si on se réfère à la forêt strictement. Donc c'est un type d'usage qui est destiné pour les chauffages au bois domestique et pour les chaufferies. C'est le contexte qui devient intéressant. C'est des évolutions à 10 ans, donc c'est des évolutions récentes qui nous permettent d'un côté voir l'évolution de la consommation des bois domestiques et du bois des chaufferies. Et d'un autre côté, toutes les ressources qui sont utilisées pour nous chauffer. On est dans une situation où tout ce qui a été planté aux années 60, 70 est arrivé à maturité. Et actuellement, on est dans une phase où on replante et il faut attendre encore que la ressource puisse arriver à maturation dans un nouveau cycle. Donc des fois, ça crée des tensions aussi sur la disponibilité. Ce n'est pas inquiétant, mais il y a une certaine pression, il faut anticiper. Il y a des incertitudes aussi dues aux effets de changement climatique, et on essaye d'anticiper ces futurs-là. Ouais. En Bretagne, on n'a pas encore une mortalité des arbres qui augmente comme dans d'autres régions, où c'est vraiment très, très forte et on voit des tendances très alarmantes des fois. Mais en Bretagne, ça reste stable, cette partie-là. Et par contre, on observe un accroissement biologique, c'est l'accroissement des arbres tous les ans, qui commence à être moins important qu'il y a 10 ans, par exemple. Quelques préconisations qu'on peut faire, c'est sur l'augmentation de surface sous gestion durable en forêt privée et feuillue principalement. et d'un autre côté aussi la mise en gestion durable du linéaire bocager existant et qui est susceptible d'être exploitable. Ben, il faut aussi un suivi régulier. En fait, il y a plein de choses à faire, mais ça, c'est principalement ce qui est envisagé.
L'Observatoire de l'environnement en Bretagne continue son travail. Le 22 mai, les chiffres clés de l'évolution du climat en Bretagne seront publiés. À l'horizon 2100, un réchauffement de plus 4 degrés est envisagé en France et cette publication décrit les conséquences de ce changement pour la Bretagne. Une action contre Bouygues. Le collectif de soutien aux personnes sans papiers de Rennes se rassemblera ce samedi 17 mai à 11h devant l'agence commerciale de Bouygues à Rennes. Ce rassemblement a lieu dans le cadre de la mobilisation régionale contre les centres de rétention administrative et contre les entreprises faisant du profit grâce à l'enfermement des personnes sans papiers comme Bouygues. L'entreprise est la principale constructrice de centres de rétention administrative en France. Un peu d'art dans ce monde de brut. Le petit marché de l'art revient à Rennes ce week-end à la Halle Marteneau. C'est organisé par l'association Art de Rennes. Vous pourrez rencontrer des artistes peintres, des sculpteurs ou encore des photographes. Samedi, vous pouvez assister au vernissage à partir de 20h avec des concerts, un verre de l'amitié et une rencontre avec les artistes. Et dimanche, vous pourrez profiter toute la journée du petit marché. L'entrée est libre et gratuite.
Merci Romain. Tout de suite la suite.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Au rouge et bleu marine, Jeanne, tu reçois Geneviève Le Tourneux, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations.
Bonjour.
Bonjour.
Cette année, c'est la 10e édition de Rennes au pluriel, un événement tourné vers la lutte contre les discriminations et la valorisation des diversités culturelles. Le festival a commencé depuis 5 jours. La programmation, elle est dense. Il reste encore beaucoup de propositions jusqu'au 22 mai, donc jeudi prochain. Le festival s'est ouvert sur la Journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition, le 10 mai. Donc, on imagine que ce n'est pas hasard, cette date.
Absolument, c'est vrai qu'on a pensé Rennes au pluriel, ce rendez-vous de l'égalité et de la diversité culturelle, en l'ancrant dans cette journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions, parce que nous considérons que l'esclavage a été la matrice des discriminations, du racisme qui traverse encore notre société. C'est un héritage traumatique qui est souvent mis de côté, un peu, on pense que ça fait mal, qu'il ne faut pas en parler, c'est un passé, c'est le passé. Et or, on sait qu'une société qui ne réussit pas justement à regarder sa mémoire et ses mémoires, à reconnaître la singularité des mémoires en face de manière lucide, de manière responsable, c'est une société qui risque de compromettre la possibilité d'un avenir commun. Et donc, on est dans une société qui est plurielle. C'est un fait, c'est une réalité quotidienne et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Mais on est aussi dans une société qui est traversée par des faits de discrimination qui sont souvent tues, non dites, difficiles à exprimer, que certains et certaines voudraient ne pas reconnaître. Or, c'est une réalité. Le racisme est aussi une réalité. On a vu ces derniers temps l'actualité, donc Aboubacar Cissé qui a été assassiné parce qu'il est musulman et c'est une évidence, une tragédie qui est révélatrice de ce racisme anti-musulman, ce racisme que certains appellent islamophobie, mais qui est une vraie réalité qui dégrade l'existence de nombre de nos concitoyens et concitoyennes, mais qui surtout fragilise la société dans son entier. Plus localement, on a mené une enquête sur la deuxième enquête sur le ressenti discriminatoire à Rennes. Et cette enquête, elle est intéressante parce qu'elle permet de dire oui, même si en Bretagne, même si à Rennes, il se passe beaucoup de choses, il y a un esprit de tempérance, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés. Néanmoins, il y a une vraie réalité, souvent invisibilisée, de discrimination qui ne sont pas sans conséquences. Ça a des atteinte sur la santé des personnes, sur la perte d'opportunités. En fait, ça met en péril la promesse républicaine d'égalité. Ça met aussi en péril la fraternité et donc la possibilité du commun. Donc c'est d'autant plus important.
Cette montée de l'extrême droite, comme vous la décrivez, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide, enfin qui vous aide, drôle de formule, vous donne envie de programmer certaines choses, peut-être qui n'étaient peut-être pas dans cette direction à la base, parce que ça fait 10 ans qu'il est là, ce festival, on imagine que la programmation a évolué. Est-ce que c'est aussi...
Alors on a d'emblée posé et pensé comme un antidote justement à toutes les idéologies de repli, les idéologies d'essentialisation, de catégorisation, de stigmatisation et de hiérarchisation. D'emblée, ça c'est véritablement le corps de notre démarche de lutte contre les discriminations. Et on utilise Rennes au pluriel, on a l'entrée par justement la création artistique, la culture, la reconnaissance des singularités. Ça nous permet justement de donner à voir la réalité de l'interculturalité qui traverse notre société, la réalité aussi de cultures qui peuvent être minorées et la réalité de situations de discrimination ou de racisme vécu qui existent. Alors, la montée en puissance, effectivement, de l'extrême droite et des suprémacismes, en fait, à travers le monde et aussi en France, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une réalité que nous regardons droit dans les yeux. Il n'y a pas de fatalité et ça renforce complètement notre engagement. Nous sommes un antidote, nous sommes une alternative à ces projets qui sont des projets de chaos, qui sont des projets violents, qui nous menacent toutes et tous. Et donc cet engagement, cette mise à l'agenda politique, non seulement c'est un volontarisme, une nécessité, mais aujourd'hui c'est un impératif.
Et la programmation de Rennes au pluriel vient comme antidote, vous le dites depuis tout à l'heure, avec des conférences, des tables rondes, des représentations artistiques. Tous ces événements, ils se déroulent dans des lieux rennais, porteurs de valeurs d'égalité. On peut en citer quelques-uns, le BAM, le bâtiment à modeler, la Maison internationale de Rennes, le restaurant Pépite à Morpa. Dans quelle mesure vous diriez que Rennes au pluriel pourrait permettre l'émergence peut-être de politiques ou de lieux même pour lutter contre les discriminations. Le festival s'est quand même ouvert sur l'inauguration de la bibliothèque Ubuntu, par exemple.
Oui. Alors, ça me permet, effectivement, vous voyez que c'est un festival, une programmation qui est très plurielle. Et pourquoi c'est pluriel ? C'était au moment où on a conçu cette approche Rennes au pluriel. Donc, le 10 mai et puis 21 mai, c'est la journée internationale de la diversité culturelle. On l'a conçu en se disant, c'est un sujet central, qui doit être aussi un sujet transversal qui traverse l'ensemble des actions publiques, l'ensemble des sphères, de nos sphères d'existence, que ça soit dans le monde de la culture, dans le monde éducatif, dans le monde du sport. Et donc il y avait cette volonté à la fois que ça soit une question centrale, parce que c'est une question centrale de notre engagement, de notre engagement politique, mais aussi que ça puisse être présent. C'est une réalité qui traverse l'ensemble de la ville. Et c'est pour ça qu'on a une programmation qui est très hybride. Et pourquoi ? Parce que, en fait, on co-construit cette programmation avec les forces vives du territoire. Ça peut être des collectifs, ça peut être des associations, ça peut être des institutions. Et on est basé sur le principe, justement, de la rencontre. La rencontre, il y a des lieux qui accueillent, il y a des propositions qui sont faites. Et tout au long de l'année, on se réunit pour, justement, pouvoir échanger, parfois faire se croiser. Quelque part, on est un peu... On crée les conditions de la rencontre et après, les rencontres des temps, des lieux, et après, la rencontre, elle nous échappe et ça, c'est l'indicateur de réussite. Alors après, sur votre question plus large, est-ce qu'il faudrait un lieu, un pôle de centralisation, une maison pourquoi pas, on a besoin de lieux ressources, mais je crois qu'on a surtout besoin de mise en réseau d'acteurs qui soient des acteurs d'univers différents, parce que c'est aussi ça, c'est, on essaye entre nous de pratiquer cette culture de l'égalité qui est basée sur l'écoute, le dialogue, la reconnaissance réciproque, c'est ce qui garantit aussi le respect de la dignité de chacun et de chacune. Donc c'est quand même cet essaimage qui est il n'y a pas un cœur. Je pense qu'on a besoin que la ville fonctionne à cette aune. Et puis ça permet aussi, c'est très important, parce que on ne fait pas ce festival pour se faire plaisir à nous-mêmes. C'est une invitation qui est faite aux Rennaises et aux Rennais dans leur pluralité, dans leur diversité. Et c'est intéressant de pouvoir avoir des entrées qui soient multiples, des propositions qui sont en hyper proximité avec des acteurs vraiment liés à un quartier, et des propositions qui sont plus globales.
Oui, il y a, comme on l'a dit déjà, mais il y a énormément de propositions. Il y a plusieurs choses qui m'ont touchée, qui m'ont intriguée dans la programmation. Il y a notamment un documentaire. C'est demain. Il y a une projection d'un film qui sera suivi d'un débat. C'est un documentaire qui retrace le procès d'un maire d'un village italien qui a accueilli des personnes exilées. Et l'extrême droite arrive au pouvoir et cet homme se retrouve devant la justice. Et les personnes exilées, elles, inquiétées, évidemment. Dans le film, l'un des personnages dit « Le maire a installé des personnes sans maison dans des maisons sans personnes ». C'est plutôt une belle formule et qui correspond bien à une actualité locale. À Rennes aussi, il y a des personnes exilées qui n'ont pas accès à des logements, qui campent au parc des Gailleuls, par exemple, et dans d'autres endroits. C'est une réalité contradictoire face au programme de ce festival qui est porté par Rennes Métropole. Je me demandais, moi, est-ce que ce film, ça vous donne envie, est-ce que c'est quelque chose, la réalité de ce maire, ce documentaire, c'est quelque chose qui vous porte un peu à Rennes Métropole, peut-être à la mairie?
Bien sûr. Alors, c'est d'ailleurs un film qui est proposé dans le cadre de Rennes au pluriel. Oui. On a plusieurs fils rouges. Hein. On a un fil rouge sur la création et la création artistique et diversité ethnoculturelle. On a un fil rouge sur héritage et mémoire de l'esclavage et des colonisations. Et puis l'autre fil rouge, c'est histoire et mémoire des immigrations. Et la question actuelle, très actuelle de l'exil, c'est une réalité qui nous préoccupe au quotidien. Je ne sais pas si vous savez, mais la ville et la métropole mettent à l'abri chaque soir 1500 personnes. J'étais cet après-midi en rencontre avec le territoire de la ville de Cork, justement sur ces questions de l'accueil, de la capacité à faire et agir et à bien accueillir dans le respect des droits humains des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité. Et on voit bien que l'absence de politique d'accueil aujourd'hui en France, l'interruption des régularisations depuis 7 ans, fait qu'aujourd'hui, on construit de toutes pièces une crise dite des personnes exilées ou des migrants, qui en fait est une crise de l'accueil, qui va à l'encontre des fondamentaux du projet européen. Parce que qu'est-ce que c'est que l'Europe aujourd'hui dans le paysage mondial? C'est bien justement cette garantie des droits humains. Même si les dérives libérales de l'Europe font qu'aujourd'hui on a une politique d'accueil, une manière de concevoir l'accueil de personnes en situation d'exil qui va vraiment à l'envers, puisqu'elle dégrade les personnes, elle met en péril la santé mentale et parfois la vie, que ce soit en Méditerranée ou en Manche. Donc que peut la ville? Est-ce qu'on a besoin? On travaille en permanence justement à avoir une qualité d'accueil. Vous savez que la ville a été porteuse d'une initiative citoyenne européenne pour un accueil digne des migrants. Et c'est la poursuite de cette démarche qui, avec la ville de Cork et de Cologne, se poursuit sur les échanges de pratiques, sur la manière dont il y a la question du logement, de l'abri, mais il y a aussi la question de l'apprentissage de la langue. Il y a aussi la reconnaissance des compétences dont les personnes en situation d'exil sont porteuses. Donc évidemment, on est sur un chantier pour lequel rien n'est parfait, mais faire de la politique, c'est aussi se confronter à des réalités qui parfois nous débordent, et c'est pour autant, c'est pas de la mauvaise politique que de savoir reconnaître nos limites. Mais nous appelons à une véritable politique d'accueil et d'intégration plutôt qu'à la stigmatisation de populations qui, en fait, c'est une stigmatisation qui est totalement dramatique pour les personnes, mais qui est dramatique aussi pour notre société et pour notre projet de société. Et on sait bien qui en tire les bénéfices.
Et si on se replonge un petit peu dans le programme donc de Rennes au pluriel, ce festival donc qui se déroule, on le rappelle, jusqu'à jeudi prochain, il y a une autre proposition, moi, qui m'a marquée, c'est qu'il y a un rendez-vous pour écouter des berceuses. C'est des papas et des mamans du quartier Maurepas qui se sont enregistrés, donc dans plein de langues différentes, qui se sont enregistrés en chantant les berceuses qui chantaient à leur enfant pour qu'ils s'endorment. Donc ça donne des frissons rien qu'à y penser, je trouve. Vous pouvez aller écouter ça, c'est dans la salle Guy Ropart. Est-ce que vous avez des recommandations, vous, à nous faire, peut-être dans ce large programme, dans ce qui reste à aller voir, à aller écouter, à aller partager jusqu'à jeudi prochain?
Je prendrais un énorme risque, puisqu'il faut aller tout voir.
Bien sûr.
Soyez dans une dynamique justement festivalière. Vous en ressortirez grandi et plus humain.
Le festival Rennes au pluriel, c'est encore donc jusqu'à la semaine prochaine. Je l'ai déjà dit, c'est jusqu'à jeudi, mais je le répète. Vous pouvez retrouver tout le programme sur Internet. La plupart des rendez-vous sont gratuits.
Ils sont tous gratuits,
voilà, c'est parfait. Et certains, il faut réserver, donc n'hésitez pas à le faire. Allez voir le programme sur Internet, ça donne envie. Geneviève Le Tourneau, merci d'être venue à nos micros.
Merci à vous.
6h avant minuit.
6h avant minuit.
Romain est de retour pour sa chronique, alors un petit peu différente. On n'est pas dans un jour un style, on est plus dans un album un style. Enfin, je te laisse nous expliquer.
Ouais, on ne sait pas trop. Il y a une demi-heure, on s'est dit qu'on n'avait pas de chronique pour l'émission d'aujourd'hui. Donc,
petit challenge.
Voilà ce que je pouvais faire. Donc, me voici. Je vais vous présenter un album qui est sorti ce mois-ci. Ça s'appelle Animaru de May Simmons. Faites très attention, c'est très doux à l'oreille.
This is a special place.
Alors May Simmons, c'est une guitariste et chanteuse américaine. Elle a un peu surpris son monde en sortant cet album au début du mois de mai, avec ce mélange entre de la bossa nova, du jazz et de la pop. C'est hyper intéressant, très doux, comme j'ai dit, avec quand même un côté dynamique. Ça nous laisse engager dans la musique, c'est pas juste un album tranquille qu'on écoute en fond. Cette dynamique, elle se ressent dans le côté un peu léger, un peu fun de l'album. On sent que May Simmons, elle se prend pas complètement au sérieux, et ça renvoie un truc très naturel dans sa musique. Et alors, gros point fort sur le projet, vous l'avez peut-être un peu entendu dans les extraits, c'est la qualité de la production. L'instrumentation est hyper riche, il y a des instruments de partout, et en plus, elle est toute seule à être créditée sur ses morceaux, donc elle a tout produit. C'est incroyable, c'est un gros tour de force, surtout que c'est que son premier album. Avant ça, elle avait sorti 3 EP, c'était prometteur, mais on s'attendait pas à un projet aussi bon dès le premier album. Les retours critiques, d'ailleurs, on le reconnaisse, et ils sont très bons également. Si vous voulez passer un bon moment, allez écouter cet album. Avec le retour du soleil en plus là qu'on a, ça devrait être super. Je vous mets un dernier petit extrait parce que cette chronique c'est avant tout du kiff. On écoute Rat with Wings.
Merci Romain, bravo d'avoir pris à bras le corps ce défi d'écrire une chronique en 40 minutes, tu l'as super bien réussi.
Merci.
Je crois qu'il y a quelques petits messages sur notre répondeur, on les écoute ?
Ah, le téléphone !
Téléphone !
Allô ? Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
Demet, coucou à l'équipe de SILAB de la part de la Skipa Fest Andrés. Un message à diffuser sur vos ondes. Retrouvez-nous demain, dès 18h30, à la salle de la Cité à Rennes, pour notre grand fest-noz avec Enéade, Discard, Blin-les-Ours et Bran, pour une nuit de folie autour de la danse et de la musique bretonne. Kenavo, Arvéchal.
Demet, coucou, c'est l'équipe Fest Andrés. T'as encore envie de faire la fête? Retrouvez-nous ce dimanche 18 mai dès 17h au bar The Station Pub, à 5 minutes de la gare de Rennes à pied, pour une seconde soirée sous le signe de la culture bretonne avec Zagail, Bob Duo et The Cocos. Kenavo!
Kenavo, merci Fest Andrés, et nous on y sera aussi avec SILAB pour un plateau spécial en direct de la salle de la Cité, ça commence à 19h, donc ne manquez pas ça, je pense qu'il va y avoir de l'ambiance. Si vous voulez nous laisser un message, je vous laisse le numéro, c'est le 02 30 96 25 35, vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez, on diffusera ça à la fin de l'émission, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des petits compliments sur les chroniques de Romain, par exemple.
Très bon choix.
N'hésitez pas.
Eva, je le dis comme ça, parce que Eva, je suis en face de lui.
Je peux aussi laisser un message, Eva, si tu veux, pas de soucis. Avant de se quitter, je voulais juste vous redonner les mots de passe pour les jeux concours qu'on propose en ce moment. Il y en a pas mal. Alors, en ce qui concerne le festival des Envolées, il y a deux jeux. Alors, le premier, c'est pour le spectacle Être qui je suis, donc c'est le samedi 24 mars à 16h30 au théâtre de la Paillette. Et le deuxième, c'est pour le spectacle qui a lieu le lendemain, aussi au théâtre de la Paillette à 14h. Ça s'appelle Dérapage amoureux. Un seul mot de passe pour ces deux jeux, c'est Paillette, of course. On a aussi un mot de passe pour les concerts de Imaran, Timbuktu et Mirkout. Ça, c'est à l'Ubu le vendredi 23 mai à 20h30. Le mot de passe, c'est Saz, comme l'instrument à cordes qui est une sorte de lutte kurde, voilà, ça va dans la vibe de la soirée qui est organisée par l'asso Goslico. Et puis, il y a toujours le concours pour le spectacle Tamanegui au Triangle, ça c'est le mardi 27 mai. Le mot de passe, donc, c'est oignon, parce que Tamanegui, ça veut dire oignon en japonais, voilà. Et pour le fest-noz de Fest Andrés, on vient d'en parler, vous pouvez aussi gagner une place, donc c'est demain. Dépêchez-vous, le mot de passe c'est Enéade, comme le groupe qui est programmé pour jouer et pour gagner. Rendez-vous sur c-lab.fr. Merci Clara pour la technique. On se retrouve lundi dans 6h avant minuit.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur SILAB, la radio sauvage.